Bonjour. On attend que les derniers s'asseyent. Bienvenue à chacun, qui que vous soyez, enfants, il y en a quelques-uns, jeunes, il y en a quelques-uns aussi, adultes, il y en a un peu plus. De passage, que vous soyez de passage à la découverte de notre Église des habitués, ou que vous nous regardiez depuis chez vous, chacun, vous êtes les bienvenus. Tout d'abord, quelques annonces. Vous les avez vues défiler, si vous n'avez pas seulement discuté, mais que vous avez regardé l'écran. Voilà. J'ajouterai qu'il y a plusieurs occasions de prier dans notre Église. D'abord, ce matin, si quelqu'un exprime le besoin qu'on prie pour lui, il y a deux personnes qui se tiennent là, en bas de l'estrade, pour prier pour vous. Et puis, il y a la prière. Ouais, j'aurais dû commencer par là, parce que ça vient avant. À 9h30, il y a la prière pour le culte dans la salle du groupe de jeunes tous les dimanches. Il y a un temps de prière et de jeûne tous les premiers mardis du mois à la chapelle à 12h. Ah, au groupe de jeunes, d'accord. Et une rencontre de prière communautaire le mardi, je pense aussi au groupe de jeunes, le 18 juin à 20h15. Il faut regarder le programme pour être sûr de la date. Et peut-être aussi, si vous voulez savoir ce qui se passe à l'église, qui prêche le dimanche ou les activités régulières, vous pouvez, il y a l'actu Mérin qu'on peut recevoir par mail. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous adresser à Thierry Terra, qui fait la projection ce matin, ou à Sylvain Dupertuis, qui est là-bas dans le fond. Mérin-les-Bains, chaque année, ça commence le 24 juin, et Claude Parnigoni a une annonce à nous faire.
Faut que je mette les lunettes. Voilà, c'est pas les lunettes de soleil, effectivement, mais Mérin-les-Bains, comme depuis 4 ans, toujours avec l'accord du Conseil. Donc ça fait 4 ans que l'Église participe à Mérin-les-Bains, donc c'est une activité de la commune de Mérin, et pour nous c'est un petit peu aussi rejoindre Mérin. Et notre journée, nous avons une journée de l'Église évangélique de Mérin qui sera le lundi 8 juillet, avec la tenue de la buvette dès 14h, une animation de bulles de savon l'après-midi, une raclette préparée par Elisabeth et Michel Cretenny, et un ciné-transat avec le film « Écrire pour exister » de Richard Lagravenez. Donc nous avons besoin de quelques bénévoles pour les différentes activités, et merci si vous pouvez venir vers moi pour vous inscrire pour une période à peu près de 2 heures. Et le bénéfice de cette journée ira pour le groupe de jeunes. Donc n'hésitez pas, c'est très sympa, très convivial, et ça donne aussi l'occasion d'être une présence chrétienne parmi cette manifestation communale. Merci. Donc je rappelle la date, c'est lundi 8 juillet.
Vous avez raison, c'était bien enlevé. Dans Marc 10, Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour libérer une multitude de gens. Et dans Timothée, 1 Timothée, il y a un seul Dieu, un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, un être humain, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour la libération de tous. Au moment voulu par Dieu, il a ainsi apporté la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Que vous soyez fiers de vous ou que vous désespériez de vous-même, entrez dans ce culte avec l'assurance d'être accueillis par votre Dieu. Il vous aime tant. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu nous aimes et c'est une sécurité pour nous parce que nous avons besoin de toi. S'il te plaît, viens habiter notre culte, viens dans notre cœur afin que nous vivions une véritable rencontre avec toi et les uns avec les autres. Sois avec ceux qui sont malades ou qui ont un fardeau trop lourd pour venir nous rencontrer, sois à leur côté. Nous savons que tu n'abandonnes personne jamais. Amen. Certains d'entre vous, mais je vois qu'il y en a qui ont triché, ou bien, qu'est-ce que tu as sur ta feuille, Maxime ? Non, alors toi, c'est bon. Quelques-uns ont trouvé sur leur siège un objet ou une pancarte. J'aimerais que vous les ameniez et que vous les mettiez sur la croix ici. Alors, les enfants, vous avez quelque chose à apporter? Par exemple, Zoé, t'as pas une... Ben, regarde à côté de toi. Viens. Voilà. Je vais monter parce que je crois que c'est trop haut pour toi. Mais il est pas sale, tu sais, hein. Bon, quelqu'un d'autre a un objet à porter. Mais tu le mets, tu peux le mettre toi-même. Là, pour Zoé, j'ai mis parce qu'elle était petite. Mais tu le mets où tu veux. Voilà. Oui, tu grimpes et puis tu le mets. T'as le vertige. Puis tu le mets. Tu le mets tout en voilà comme ça. Parfait. Merci. En haut là, tu peux grimper là. Voilà. Bon, il faut mettre un peu plus haut que les gens puissent lire quand même. Voilà. Alors, un scotch pour chaque clou. Où vous voulez. Tu la guilles comme tu peux. Voilà. Thank you. Jésus est venu donner sa vie. C'est ce que cette croix et ses objets nous rappellent. Il est venu donner sa vie en rançon pour une multitude de gens. Pour libérer une multitude de gens. Pour libérer une multitude d'enfants. Pour libérer une multitude de jeunes, d'ados, d'hommes et de femmes comme nous. Pour me libérer moi, pour me libérer, pour vous libérer vous. Louons Dieu.
Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. je te suivrai. Dans la peine qu'on a le sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu
nous prions, et les enfants, c'est pour vous. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix et tu as souffert. C'est ce que les objets que nous avons accrochés sur la croix veulent nous dire. Tu as été d'accord de souffrir parce que tu nous aimais d'un amour immense. Seigneur, j'aimerais que chacun de ces enfants connaisse la profondeur, l'immensité de ton amour pour eux. Accompagne-les aujourd'hui dans leur groupe. Accompagne leur moniteur. Merci, parce que tu es avec eux et tu ne les lâcheras jamais. Amen. vous pouvez rejoindre vos...
Bonjour à chacun, à chacune. Au début de ce culte, Denise nous a accueillis avec le texte biblique clé de l'Évangile selon Marc, à savoir Marc, chapitre 10, verset 45. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour libérer une multitude de gens. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ce n'est pas n'importe quel homme. C'est un titre que Jésus lui-même s'est donné. Il s'appelle le Fils de l'homme. Et ce matin, j'aimerais revenir sur ce passage un peu plus ample, parce qu'il me semble que le passage de Marc 10 est très à propos pour anticiper un culte de baptême qui se tiendra ici même dimanche prochain, Dieu voulant, avec la jeune Eva Fraboulet. Mais je vous invite à écouter la lecture du texte dans son entier en Marc 10, 32 à 45.
Jésus annonce une troisième fois sa mort et sa résurrection. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant ses disciples qui étaient inquiets et ceux qui les suivaient avaient peur. Jésus prit de nouveau les 12 disciples avec lui et il commença à leur parler de ce qui allait bientôt lui arriver. Écoutez. Nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes des Écritures. Ils le condamneront à mort et le livreront aux autorités étrangères. Celles-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et après 3 jours, il ressuscitera. Jacques et Jean font une demande à Jésus. Ils viennent auprès de lui et lui disent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» leur dit Jésus. Ils lui répondirent « Quand tu seras dans ta gloire, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Êtes-vous capable de boire la coupe de douleur que je vais boire ou de recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui répondirent, « Nous en sommes capables. » Jésus leur dit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême où je vais être plongé. » Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme les chefs des peuples, les commandants maîtres et les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour libérer une multitude de gens. »
Jacques et Jean. Jacques et Jean étaient parmi les tout premiers disciples de Jésus. Nous le verrons dans 15 jours. Jésus les a appelés lorsqu'ils réparaient leur filet de pêche au bord du lac de Galilée. Jacques et Jean, c'est parmi les tout premiers. Que pensez-vous de la démarche de ces disciples de la première heure? Ils sont à côté de la plaque. C'est la première réaction que nous avons eue en lisant ce texte, hein, Denise, toi et moi, quand on réfléchissait à ce culte. On lit cette réaction, on se dit, purée, c'est pas possible. Ils sont à côté de la plaque. Ou disons, à minima, c'est vraiment pas très glorieux. Ils veulent les premières places dans le royaume de Dieu. Ils veulent être premier ministre et vice-premier ministre, si vous préférez. Et d'après le passage parallèle dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 20, leur mère était à fond avec eux. Ah, les mamans et leurs fils. Alors, est-ce que l'initiative venait d'elle? Est-ce que la mère poussait ses fils en avant? Ou est-ce que ce sont ses fils qui ont poussé leur mère en avant pour se cacher derrière elle? Parce que ça aussi, ça arrive parfois. Mais peu importe. Ce que je retiens, c'est que leur demande d'être les premiers dans le royaume de Dieu, c'est une demande totalement déplacée. Pourquoi? Parce que Jésus et ses disciples se trouvent à ce moment-là tout près de Jérusalem. Ils viennent de dépasser Jéricho. Et à Jérusalem, dans quelques heures, un accueil triomphal les attend. Puis la trahison. Puis la croix. Et à ce moment-là, Jacques et Jean, disciples de la première heure, ne pensent qu'à la gloire. C'est totalement déplacé. Ils veulent être les premiers. Et remarquez que Jésus les recadre très sévèrement et que les autres disciples ensuite s'en indignent à leur tour. Et puis il y a là quelque chose d'encore un peu plus sournois, me semble-t-il. Dans certains moments très spéciaux, comme celui-ci, Jésus se faisait généralement, si ce n'est toujours, accompagné par Pierre, par Jacques et par Jean. Eux seuls. Jésus en prenait trois dans les moments spéciaux. Lors de la résurrection de la fille de Jaïrus, par exemple, il n'y a que ces trois. Ou encore à Gethsémané, dans le jardin, juste avant la croix, il n'y a que ces trois. Un passage en Matthieu 10 cite Pierre comme le premier des douze, le plus important des douze. Pas le premier dans l'ordre d'arrivée, le premier dans l'ordre d'importance. Mais où est Pierre dans notre passage? Où est-il dans le texte que nous avons lu? Il n'est pas là. Il a été évincé. On a l'impression que Jacques et Jean, avec leur maman, nourrissent une sorte de rivalité à l'égard de tous les autres disciples et de Pierre en particulier. Nous, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, nous voulons les meilleures places dans le royaume. Nous voulons des privilèges. Nous demandons à être reconnus, à être valorisés. Nous voulons notre place, la meilleure. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce récit des évangiles est un récit réaliste. Parce que ce genre de choses, ça existe, n'est-ce pas ? Être les premiers, évincer les autres. Vous voyez ça dans la vie politique, par exemple. Vous voyez ça parfois dans les entreprises, dans les associations, parfois même dans les familles. Et si c'est réaliste, c'est que ce témoignage-là que nous avons lu, que nous méditons quelques instants, ce témoignage date d'avant la période où dans l'Église, les apôtres devaient être de parfaits petits saints, héroïques, exemplaires, auréolés, proposés à la vénération des fidèles dans des tableaux en or. Ça vient bien après le récit. Le récit, il est réaliste. Marc n'imagine pas un instant des hommes parfaits. Marc n'invente pas des modèles derrière lesquels nous pourrions nous ranger. Il dit les choses, Marc, comme elles se sont passées. Et c'est un signe parmi d'autres de l'authenticité des évangiles. L'Église n'a pas inventé les apôtres. Elle les a trouvés comme ils sont décrits dans la Bible. Des apôtres imparfaits et faillibles. Et puis il y a dans ce passage un deuxième signe d'authenticité. On le trouve dans un verset un peu mystérieux, je trouve. C'est le verset 40. Jésus dit « Ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. » Quand on met bout à bout tout ce que la Bible enseigne sur Jésus, on voit assez rapidement, je trouve, que Jésus est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme. Il était plus jeune que Jean-Baptiste, son cousin. Mais en même temps, il existait avant lui. Il existait avant Abraham, dit-il. Il était au commencement de l'univers, avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Les mages sont venus l'adorer alors qu'il était enfant. Thomas l'a adoré. Thomas, qui avait tant douté, a plié le genou et lui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Dans l'Apocalypse, les foules célestes l'adorent. Jésus est vraiment Dieu. Passé les premières décennies de l'Évangile, ce qu'on retient de l'histoire de l'Église, c'est que la divinité du Christ impressionnait beaucoup les gens, au point qu'ils pouvaient nier que Jésus, tout en étant parfaitement Dieu, était aussi parfaitement homme. C'est d'ailleurs l'objet, le thème de la première lettre de Jean. Jésus est vraiment homme. Certains disaient que Jésus n'avait même pas besoin de manger, qu'il faisait semblant de manger. Mais Jésus est né d'une femme. Jésus a grandi dans une famille. Jésus a travaillé, il a eu soif, il a été fatigué, il a donné à voir toutes ses émotions, la joie, la peine, la tristesse, l'angoisse, la colère. Et il a saigné, et il est mort. Parfaitement Dieu et parfaitement homme. Jésus était un vrai homme. Et les évangiles authentiques ne le cachent pas. Ils ne connaissent pas encore ces théories qui le voyaient comme un extraterrestre. Ils ont simplement raconté les choses. comme ici. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. C'est une phrase un peu mystérieuse, non ? C'est comme si le pouvoir de Jésus était un peu limité. Alors qu'il chasse les démons, qu'il arrête la tempête et qu'il ressuscite des morts. C'est quoi ça ? C'est un signe de son statut de fils de Dieu. Un fils de Dieu qui ne fait rien en dehors de la volonté de son Père. Un fils qui se soumet à son Père. Un fils qui reçoit tout du Père et qui lui rend gloire. Vous savez, un évangile qui aurait été écrit sur le tard ne nous aurait jamais laissé un truc pareil. Il nous aurait donné un Jésus magique, glorieux, sans limite. Il aurait lissé ce genre de paroles. Il ne les aurait pas retenues. Si jamais vous ou vos amis vous doutez de l'authenticité des évangiles, voici donc deux petits indices parmi mille autres qui disent que vous pouvez leur faire confiance. Les aspérités des hommes ne sont pas mises de côté. Et les ambiguïtés dans la personne même du Christ sont valorisées. L'Église n'a pas inventé Jésus. L'Église l'a trouvé comme ça, comme il est décrit dans les évangiles. J'en viens maintenant au cœur de notre passage, à la question qui est posée par Jésus. Êtes-vous capable de boire la coupe de douleur que je vais boire ou de recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Alors c'est un langage qui est imagé, bien sûr. Il ne faut pas le prendre au premier degré, il est imagé. D'ailleurs, dans le psaume 23, par exemple, la coupe qui déborde, c'est un synonyme de joie, de fête, d'abondance. Mais dans l'Ancien Testament, la coupe est souvent un symbole de jugement, un symbole de souffrance, le symbole d'une ivresse insupportable. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus lui-même a prié que cette coupe s'éloigne de moi. Ce n'était pas une coupe comme nous allons en prendre une tout à l'heure. C'était la coupe de la douleur, la coupe de la souffrance. Il parle de l'épreuve de la croix. Et là, il pose la question. Les amis, Jacques et Jean, pouvez-vous endurer ce que moi je vais endurer? Dans le Jourdain, avec Jean-Baptiste, les gens se faisaient baptiser. Ils se faisaient baptiser en signe de repentance, comme le signe de leur volonté de vivre enfin autre chose. Dans Romains et dans Colossiens, le baptême, c'est le signe de la fin de l'ancienne manière de vivre et le début d'une nouvelle manière de vivre avec le Christ, une vie de ressuscité avec lui. Mais ici, dans ce texte, l'occurrence du mot baptême, c'est beaucoup plus basique que ça. Baptiser, c'est littéralement plonger dans l'eau, tout simplement. Baptiser, c'est être submergé, noyé. Vous qui voyagez un peu en Europe, vous avez peut-être été à Florence. Qui a déjà été à Florence ? Ah ! Vous connaissez donc cette cathédrale magnifique. Il Duomo, le dôme. Cathédrale splendide à visiter impérativement à Florence. Mais à côté d'Il Duomo, à côté du dôme, il y a une autre église, beaucoup plus petite, qui s'appelle le baptistère Saint-Jean. C'est symbolique, bien sûr. Mais les gens devaient être baptisés dans cette
petite église octogonale avant de pouvoir entrer dans Il Duomo. Et puis il y a autre chose d'absolument brillant dans la cathédrale Il Duomo. C'est un vitrail qui représente le baptême de Jésus. Ça se passe comment, le baptême de Jésus dans la cathédrale de Florence? Eh bien, exceptionnellement, il n'est pas debout dans le Jourdain. Il n'est pas là, dans une position verticale, avec Jean-Baptiste à côté de lui, qui lui verse un petit peu d'eau sur la tête. Dans ce vitrail, Jésus est allongé, entièrement recouvert par le Jourdain. Il est plongé dans l'eau. Et dans certains coins de la chrétienté, le souvenir de cette façon de faire s'est donc conservé pendant longtemps. Dans notre texte, Jésus va être plongé dans quoi ? Pas dans l'eau, mais dans la souffrance. Êtes-vous capable de boire la coupe de douleur que je vais boire ou de recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Le langage imagé de la coupe et du baptême parle de la souffrance qui attend Jésus. Il parle de la croix. Il parle de sa mort. Et là, quand nous comprenons ce que Jésus veut dire, nous trouvons la réponse de Jacques et de Jean totalement surréaliste. Nous pouvons boire cette coupe. Nous pouvons subir ce baptême. Ta souffrance, Jésus, nous pouvons la supporter aussi. On en est cap. Bien évidemment, Jacques et Jean, à aucun moment, ne vont donner leur vie pour porter le poids de nos péchés. Ça n'arrivera pas. Le Fils de l'homme est venu pour se faire servir, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir, pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ça, c'est une trajectoire unique. Il n'y a que lui qui le fait de porter nos fautes. Mais étonnamment, dans notre récit, Jésus semble leur donner raison. C'est étonnant. Il leur dit, Jésus, « Eh les gars, vous boirez en effet la coupe que je vais boire. Vous serez baptisés du baptême où je vais être plongé. Vous allez être dedans. Autrement dit, vous connaîtrez la souffrance comme moi. » Ça, c'est tout le contraire de la gloire royale que Jacques et Jean attendaient. Et c'est tout le contraire du parcours toujours joyeux, toujours triomphant, toujours béni que certains chrétiens et certaines chrétiennes imaginent. C'est à des années-lumière de ce que Jésus a annoncé. Ne nous faisons pas avoir par ces discours qui nous parlent d'une foi chrétienne tranquille et bénissante tout le temps. D'ailleurs, regardons comment ça s'est passé ensuite pour nos deux disciples, Jacques et Jean. Pour les deux, il y a d'abord eu le choc immense de la crucifixion. Parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils sont plongés dans le deuil à cause de la mort de leur maître. Ils sont plongés dans le deuil de toutes leurs espérances. Ils sont plongés dans le malheur. Ils étaient au fond du gouffre. Puis quand Jésus est ressuscité, toute leur manière de voir devait changer. Elles ont ensuite vécu les premiers conflits avec les autorités religieuses. Jean a été battu par le Sanhédrin, acte 5, verset 40. Après le lynchage d'Étienne, la persécution s'est faite encore plus pressante. Mais les apôtres ont poursuivi leur ministère. Puis vers l'an 44, Jacques, qui voulait savoir s'il pourrait être assis à côté de Jésus dans le royaume des cieux, dans une gloire royale, Jacques a été décapité par Hérode. Et vers l'an 95-95, l'apôtre Jean a été exilé sur l'île de Patmos, loin de tout. Donc, on peut dire, on doit dire que ces deux apôtres ont eu leur part d'épreuves. Leur parcours était très différent. 10 ans de ministère pour l'un, 60 ans pour l'autre. Mais pour les deux, mes amis, on peut parler d'une vie de fidélité. La souffrance, elle faisait partie de leur histoire. Mais pas que la souffrance. Jacques a vu le succès incroyable de l'évangile en Judée. Il faut lire ses récits dans le livre des Actes. C'est incroyable ce qui se passe en Judée. Et Jean a écrit un évangile où la joie figure en très bonne place. J'ose même penser que la réponse de Jésus contient donc un sous-entendu très positif. Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. En baptême, un baptême, on en ressort. Un baptême, on en ressort. Mouillé, mais vivant. Autrement dit, vous boirez, vous subirez, mais vous en sortirez. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de magnifique à méditer. Vous boirez, vous subirez, mais vous en sortirez. Parce que vivre sur cette terre sans connaître des moments difficiles, c'est une illusion, que nous soyons chrétiens, chrétiennes ou pas. Le monde est marqué par le désordre, par le chaos. Nous y contribuons et nous en pâtissons à la fois. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la paix, la joie et tellement d'autres belles choses. Mais nous vivons en même temps la communion aux souffrances de Christ et la puissance de sa résurrection. Nous passerons tous et toutes par l'épreuve ultime qu'est la mort, à moins que Christ ne revienne avant. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous suivons un parcours comme le sien pour être enfin un jour semblable à lui quand nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Une des noblesses de l'Église, c'est quand des aînés peuvent voir que l'évangile touche des enfants, touche des jeunes, et que des jeunes peuvent voir qu'on peut tenir la distance jusque dans la vieillesse. Je peux le confirmer aujourd'hui. J'avais à peine 17 ans quand le Christ m'a appelé d'une manière absolument déterminante. J'ai été baptisé une année plus tard, en 1989. En près de 25 ans de ministère pastoral, j'ai connu des moments qui ont failli m'écraser. J'ai cru que j'allais y laisser ma peau. J'ai eu des ennuis de santé qui ont pesé. Mais du bas, du très bas de mes 52 ans, je peux vous dire qu'on peut tenir la distance. Ou plutôt, je peux vous dire que le Christ nous tient, nous soutient, nous rattrape, nous repêche, nous restaure, nous porte. Nous tiendrons. Nous tiendrons. Nous pouvons tenir, disent Jacques et Jean. Cela me rappelle les paroles de l'apôtre Pierre. Même si tous les autres t'abandonnent, moi je t'abandonnerai pas. Je suis prêt à mourir avec toi. Excès de zèle, naïveté, orgueil, présomption, bien sûr. Tout cela est mêlé, bien sûr. Mais si à notre tour, nous chantons, nous tiendrons établis sur le roc, ce n'est pas parce que nous nous croyons forts. Ce n'est pas parce que nous nous croyons fortes. C'est parce que le Seigneur est fort et que nous croyons qu'il nous tiendra. Parce qu'il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour libérer une multitude. Pas pour que nous retombions dans l'esclavage, pas pour que nous retombions dans la médiocrité, pas pour que nous retombions dans la peur, mais pour se constituer un peuple de rachetés. Vous en êtes. Vous êtes à lui. Jésus a dit un jour, il est un baptême que je dois recevoir et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçu. Luc 12, verset 50. Dès sa naissance, planait l'ombre de la croix. Par son propre baptême dans le Jourdain, il s'identifiait aux pécheurs que nous sommes. Quand il lisait les psaumes, il s'identifiait au roi David, trahi, et au roi David, pécheur. Il est monté de la Galilée à Jérusalem, et chaque pas le rapprochait de ce baptême terrible qu'il subirait, de cette coupe amère qu'il boirait. L'angoisse montait, et en même temps, la détermination montait. Il sera tenté, mais il ne lâchera pas. Il sera mis à l'épreuve, mais il ne lâchera rien. Le Christ ne se donnera aucun repos avant de pouvoir dire une phrase déterminante. Tout est accompli. Donne, c'est fait. Il n'y a rien à ajouter. C'est bon. Vous pouvez entrer dans ce salut. Vous pouvez entrer dans ce repos. La vie nouvelle, elle est là. C'est fait. Je l'ai fait pour toi. Ayant un tel sauveur, comment pourrions-nous douter un instant de la suite? Nous tiendrons, mes amis. Nous tiendrons. Pas dans l'orgueil, mais dans la foi. Précédés par le Christ, accompagnés par le Christ, tenus par le Christ. Nous tiendrons. Amen.
Un temps est venu pour la prière secrète dans votre cœur ou à haute voix, si vous avez envie de partager quelque chose. Nous prions. Merci Jésus pour ce que tu as fait. merci d'avoir accepté de passer par le chemin où tu es passé. Et merci parce que tu nous as ouvert un chemin. Et c'est ça qui est important pour nous, que nous gardons et nous voulons entrer dans ce chemin. Amen.
Seigneur, que dire après un tel exposé de faits véridiques, si ce n'est, Seigneur, que mon cœur soit toujours plus désireux de marcher dans tes voies, de me laisser façonner par toi pour que je te ressemble de plus en plus avec la grâce, et que mon cœur déborde d'amour et de reconnaissance pour toi. Seigneur, je te demande au nom du Seigneur Jésus, mon Sauveur et Seigneur. Amen.
Seigneur, merci parce que ce n'est pas par l'orgueil que nous tiendrons, Seigneur, mais c'est bien par toi, au travers de ton Esprit Saint, au travers du Consolateur, Seigneur, de l'Avocat du Paraclet. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants de cette aide que tu nous as donnée, que tu nous donnes, Seigneur, dans le fond de notre cœur. Seigneur, merci pour cette présence, merci pour ton œuvre, pour chacun d'entre nous, et merci aussi d'être dans nos cœurs et de nous accompagner chaque jour sur notre chemin.
Merci Seigneur pour ton humanité, parce que tu es l'homme. Merci d'avoir vécu, de nous avoir rejoints dans tout ce que nous vivons. Merci aussi parce que tu es divin, merci parce que tu es Dieu. Et merci parce que tu nous as rejoints là aussi.
Oui, Seigneur, cette phrase, tout est accompli, c'est une merveille. Donc, tous ceux, Seigneur, qui viennent à toi, qui croient en toi, peuvent aller dans le royaume des cieux, chez toi, Seigneur, pour l'éternité. Merci.
Oui, merci Jésus parce que tu nous avais déjà choisi avant la fondation du monde. Et ce choix, tu l'as confirmé par ce sacrifice à la croix. On veut te louer pour toi, Seigneur. Merci parce que c'est par ce sacrifice que nous pouvons vivre éternellement avec le Père et tenir ferme. Et on veut te louer, Seigneur. Merci.
Amen.
Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et merci d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit pour nous aider à vivre de ta vie, nous conduire, nous enseigner tout ce que tu voudrais nous dire. Amen.
Hey, the Ce chant conclut bien la prédication de Philippe et nous fait entrer dans la Sainte Cène. Philippe a bien décrit tout ce que Jésus a vécu. Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour libérer une multitude de gens. Il est venu nous libérer du péché parce que le péché, Dieu en a horreur. C'est pour cela qu'il a fallu que Jésus meure sur la croix. Le péché, ça veut dire manquer sa cible. Ça veut dire que le péché nous fait voir une idée fausse de Dieu, mais aussi une idée fausse de nous-mêmes. On a des fois des idées sur nous-mêmes que Dieu ne pose pas du tout ça. Et aussi de notre relation avec les autres, des autres. Et c'est un grand malheur. Jésus est venu nous libérer de cela. Qu'il ait été d'accord de le faire, nous dit la dimension de l'amour qu'il a pour nous. Quand nous avons préparé ce culte avec Philippe, Philippe a exprimé le désir que cette scène soit un petit peu particulière. C'est pour cela qu'il y a cette table spéciale, bien garnie, belle, abondante, signe de l'amour, signe de la générosité, de l'abondance d'un Dieu qui est sans limite dans ce qu'il veut nous donner. Dieu, en Jésus, nous donne de l'espace. On est souvent étriqué en soi. Il nous donne de l'espace. Il nous donne de la place dans la vie, de la place dans la société. Il nous ouvre des champs de possibles pour exprimer nos capacités, nos dons, nos désirs. Il nous offre de la joie, de la vie, de la paix, du calme. Nous écoutons le chant de Glorius. Pour moi, tu l'as fait.
Le poids de ce monde l'oublie dans le
C'est la fête de la Pâque. Jésus sait qu'il va mourir, que c'est le dernier repas qu'il prend avec ses disciples. En se mettant à table, il leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Je ne le prendrai plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. » Pendant le repas, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea et le leur donna en disant « Prenez, mangez-en tous, ce pain est mon corps que je donne pour vous. » Il fit de même avec la coupe en leur disant « Cette coupe, prenez, buvez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. »
Nous prions. Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons entrer dans le salut et goûter à ce salut parce que tu as fait tout ce qui était nécessaire. Nous pouvons nous faire baptiser, nous pouvons prendre cette coupe, ce pain, d'une façon complètement revisitée parce que nous n'avons rien à payer, mais tout à recevoir. Je te prie, Seigneur, de nous aider à prendre ce repas dans la reconnaissance et la joie pour ta grâce immense, généreuse, qui nous accueille tous et toutes, qui nous sauve, qui nous relève et qui nous accompagne. Visite-nous ce matin, Seigneur, pour que ce repas nous fasse du bien de l'intérieur. Dans le nom de Jésus. Amen.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus. La coupe de vin que nous recevons comme un cadeau est la communion au sang de notre Seigneur Jésus. En prenant le pain et le vin, en mangeant et en buvant, vous allez à la rencontre de Dieu et Dieu vient vous rencontrer et nous le vivons les uns avec les autres. La table est prête. Il y a abondance de mets. Des pains différents, Adrien a bien compris. Des pains différents, des pains coupés déjà en petits morceaux, des pains que vous pouvez rompre et prendre vous-même un petit morceau. Il y a des coupes de vin, des petits verres. Dans les verres violets ou roses, c'est le jus de raisin. Dans les gobelets comme ça, il y a aussi du jus de raisin. Tout le reste, c'est du vin. Vous pouvez prendre une gorgée, vous avez beaucoup de liberté. C'est l'abondance, c'est l'amour, c'est la générosité de Dieu. Jésus est mort. Il a vécu ça pour que nous puissions vivre ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous avancer maintenant et de venir prendre. Jésus a dit « prenez ». Donc, venez prendre, emparez-vous de ce cadeau que Dieu vous fait. D'accord ?
Amen.
On va faire ça avec un peu d'ordre quand même. Vous approcher par les allées centrales de chaque côté et puis vous repartez par les côtés quitte à faire tout le tour des chaises. D'accord ? Voilà. Bon, Adrien, ne se gêne pas. Venez, prenez. C'est le cadeau de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a voulu pour nous. Prenez tout le pardon, l'amour, la joie, la paix, le calme, tout ce que Dieu veut vous offrir. Approchez-vous.
Vous en avez ça un peu ?
Tu vas voir ça. Merci. Seigneur, Seigneur, merci, merci infiniment. Tous ensemble avec les chrétiens du monde entier, nous te disons notre Père, nous sommes une tellement grande famille de par le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, un dernier chant qui exprime notre désir de suivre Jésus. Et pendant ce chant, nous récolterons votre offrande.
Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien
Vous pouvez prendre place. Bon, je vais vous faire faire de la gymnastique, tant pis. Ne vous étonnez pas si tout le monde ne met pas quelque chose dans les sachets. Il y a d'autres possibilités de donner votre offrande par compte en banque directement ou par Twint. Nous remercions Dieu. Seigneur, merci parce que nous ne manquons de rien. Bénis notre pasteur, bénis les terras, bénis nos activités. Bénis-nous, Seigneur. Merci. Amen. Bon, vous vous relevez. Il est venu vivre notre humanité. Il est venu dans notre solitude partager l'amitié, l'affection, l'entraide. Il est venu ressentir nos doutes, nos angoisses, nos peurs. Il est venu pleurer nos tristesses, nos déceptions, nos chagrins, et rire nos joies, nos bonheurs. Il est venu donner et recevoir, parler et écouter, aimer. Il est venu boire, manger, dormir, marcher. Il était Dieu et il avait tout. Il a accepté de se dépouiller pour devenir homme et aujourd'hui il vient. Il vient remplir ta solitude de sa présence, t'entourer de ses bras lorsque tu as peur, sécher tes larmes et te consoler. Il vient rire avec toi, partager tes bonheurs. Il vient pour être ton ami et ton Dieu. Il vient te donner sa vie à chaque instant de la tienne. Allez dans la paix du Seigneur, qu'il vous bénisse chaque jour de cette semaine. Bon dimanche à tous.